Sur une proposition des instances interministérielles MILDECA, Radio Libre en Périgord vous présente un grand débat en quatre volets sur les addictions. Aujourd'hui, l'addiction au cannabis, préparée et présentée par Aïda De Gex et Christian Lardelet. Bonjour à tous et à toutes et merci à mes invités qui sont présents. Je sais qu'en plus, les temps sont extrêmement difficiles à dégager pour toutes les professions que vous représentez. On va faire un petit tour de table très rapide. On va commencer par Monsieur Tellier, vous représentez l'École nationale de police.
Oui, tout à fait. Donc, merci de nous avoir invités. Donc, je suis présent parmi vous donc, pour représenter donc, l'école de police et aussi peut-être dans le cadre de mes fonctions de policier formateur anti-drogue que j'exerce depuis bientôt 10 ans. Voilà.
À votre voisine, et qui est à ma droite, Laure. Alors Laure, vous êtes coordinatrice, vous êtes dans la formation également, coordinatrice d'une structure qui est très très impliquée dans les problèmes d'addiction de drogue.
Oui, effectivement, je m'appelle donc Chardonne Raylor. Je suis éducatrice de formation et coordinatrice actuellement au sein de l'unité de réhabilitation pour usagers de drogue, qui est effectivement dirigée par le CUID, le Comité d'études et d'information sur les drogues.
On a par téléphone tout à l'heure, on aura un médecin qui est le docteur Blondeau, qui fait partie également de votre structure. Il est à Bergerac, vous comprendrez bien pourquoi on l'aura par téléphone en insert. Et on a une invitée très particulière qui est Elisa, qui est en face de moi. Elle va vous expliquer un petit peu pourquoi elle est là aujourd'hui, très impliquée. Elle a été très impliquée au niveau addiction. Elisa, bonjour.
Bonjour Christian.
Alors, vous êtes là en tant qu'ex-consommatrice, on va dire.
Oui, tout à fait.
Et alors, je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup à dire tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne ce type de drogue, on appelle ça la drogue, on va parler du tabac également, parce que le tabac, on a dit qu'on était addict au tabac, donc il y a toujours un amalgame. Et si on compare au tabac, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se défendent qu'on ne devient pas addict. Alors déjà, il y a une réaction, j'ai le formateur d'école de police qui me regarde avec des yeux ronds. Vous en pensez quoi hein?
Non, des yeux ronds peut-être pas, mais je pense qu'il faut prendre les choses de manière assez concrète. La drogue, vous l'avez dit, ça répond à une définition bien précise. Hein. L'Organisation mondiale de la santé a défini la drogue, donc substance licite, illicite, qui contient surtout une substance psychoactive. D'accord. Et puis surtout qui a des effets néfastes sur la santé. On va résumer à ce niveau-là. Donc, opposé tabac, cannabis, quelque part dans nos esprits à nous, agents de prévention sur les produits dangereux, stupéfiants, pouvant entraîner des addictions, on reste sur un schéma où le tabac est quelque part aussi une drogue, comme le cannabis. Donc il ne faut pas opposer les deux, il ne faut pas faire peser plus l'un que l'autre. On a deux produits qui sont dangereux, on a deux produits qui sont en consommation malheureusement courante.
Mais un est légal et pas l'autre.
Mais un répond à des normes, à une réglementation, et l'autre est considéré à l'heure actuelle comme illégal, totalement illégal.
Vous savez vous devez le savoir bien sûr, mais ça c'est pour nos auditeurs, en 1920, on pouvait acheter du cannabis dans les bureaux de tabac.
Oui, alors je peux vous dire aussi que dans d'autres pays, alors on s'en tient peut-être pas qu'en France, mais dans d'autres pays, il y a aussi des législations qui sont pas du tout les mêmes par rapport au cannabis. Le cannabis en France, même si en 1920 il pouvait exister et on pouvait l'acheter, sa démocratisation, presque on pourrait dire, c'est dans les années 70, hein, où c'est beaucoup plus apparu. Les événements de 68 y sont peut-être pour quelque chose. Toujours est-il qu'on a un pic de consommation qui commence à apparaître à partir de cette date-là. Comment vous dire, c'est pas parce que on a eu consommé qu'on doit revenir sur le passé pour consommer. Je pense qu'on a un problème avec les produits dangereux, les produits stupéfiants, les produits qui rendent addicts. L'alcool, le tabac, puisque l'alcool, vous en parlerez dans votre prochaine émission, l'alcool, le tabac, le cannabis sont des produits qui sont dangereux, qui rendent addicts. Donc voilà, je pense qu'au lieu de dire est-ce qu'on doit se permettre de légaliser ou de permettre de consommer le cannabis, sans dire de légaliser, mais au moins de consommer le cannabis, il y a d'autres problèmes à régler, je pense, de sortir certaines personnes d'une dépendance sur ces trois produits les plus utilisés en France, que sont tabac, alcool et cannabis.
Très souvent, d'ailleurs, c'est lié, ça va ensemble.
Il est assez fréquent de voir des gens qui sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des polyconsommateurs, c'est-à-dire qui associent sur des moments festif ou moins festif, hein, le tabac, le cannabis et bien sûr l'alcool qui va se...
On en reparlera un peu plus tard dans l'émission sur, évidemment, le volant en conduite, mais comme tout à chacun, je regarde aussi des émissions d'enquête télévisées où on vous représente tout de suite, à chaque fois, la personne se fait arrêter, elle est positive à l'alcool et le dépistage cannabis, il est positif derrière très souvent.
Très souvent, malheureusement, quand je dis c'est associé à une polyconsommation, il est fréquent de voir des gens qui sont en infraction, qui sont sous la dépendance de ces deux produits-là. Oui, c'est assez fréquent.
Alors, Elisa, on va venir directement à vous, parce que c'est vrai que M. Tellier a tout de suite lancé, le pavé dans la mare sur l'addiction, sur la consommation qui est liée avec d'autres substances ou l'alcool. Vous-même, est-ce que vous êtes fumeuse déjà ?
Alors, j'ai été fumeuse, oui.
Oui.
De cigarettes et du coup de cannabis. Et maintenant, je suis à la vapoteuse et je fume plus que ça.
Alors, ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas si la vapoteuse, ça, c'est très, très bon. Enfin, bon.
Pour l'instant, ce n'est pas interdit.
Non, voilà. Pas encore, mais j'ai bien peur. Il y a des bruits qui courent, que ce n'est pas terrible. Enfin, toujours est-il que vous avez donc été consommatrice,
oui.
Et vous ne l'êtes plus.
Non, je ne le suis plus. J'ai commencé plutôt jeune. Je pense que j'avais 15 ans. J'ai arrêté vers 17 ans. Je parle vraiment... Il faut prendre compte que je parle de mon point de vue à moi, de ce qui s'est passé pour moi. Il faut prendre compte que je suis une femme, que j'ai commencé du coup à 15 ans et que ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'étais vraiment dans l'optique... Pour moi, c'était pour essayer... Je pense, vu que je ne me rappelle plus trop comment je pensais à l'époque, mais un petit peu quand même, j'avais l'impression de me sentir en vie et d'exister à travers ça parce que je me faisais des relations avec les gens, parce que je fumais, etc. Je buvais aussi, mais là, je parle vraiment du cannabis et c'était... une sorte, j'essayais d'anesthésier en fait les émotions, je pense, avec un point de vue extérieur bien sûr. J'étais pas du tout dans l'optique d'un jour arrêter. Dans ma tête, j'avais 15 ans, dans ma tête, j'avais toute la vie, j'allais fumer toute ma vie, j'allais tester tellement de drogues que ça allait être vraiment génial. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fumant, les effets qu'on a au début, c'est génial, c'est l'euphorie, tout ça, on est super content. Et les effets, à force de fumer tous les jours, ça baisse et on a envie de tester plus pour retrouver ce moment d'euphorie qu'on retrouve avec d'autres drogues mais qu'on ne retrouvera jamais avec le cannabis.
Autrement dit, vous insinuez un peu qu'on est tenté d'aller dans les drogues plus fortes justement parce que après ce n'est plus suffisant.
Je parle pour mon cas.
Oui, non,
mais... je ne fais pas une généralité.
Tout à fait.
Et du coup, ce qui m'a fait arrêter, c'est des problèmes de santé qui ont été assez récurrents par des trucs que j'ai fumé qui étaient coupés ou j'ai fini à l'hôpital parce que voilà, j'ai fait un coma. Enfin, je suis tombée dans les pommes. Il y avait du. Enfin, voilà, ça a été. Et encore, c'est même pas ça qui m'a arrêté. Mais. Voilà.
Alors, ma voisine de l'Urude, là, elle doit se dire c'est merveilleux s'ils étaient tous comme ça. On va revenir tout de suite à vous, justement, pour que vous le commentiez. Aïda, vous voulez nous donner quelques chiffres.
Oui, dans ce témoignage, je pense qu'il y a plusieurs thèmes qu'on pourrait après évoquer ensemble. Premièrement, l'âge de personnes qui commencent à tester ces produits. Pourquoi ? Voilà, pourquoi dans cet âge ? Parce que j'ai une statistique officielle. Apparemment, 15 ans, c'est l'âge moyen de l'expérience. Donc, c'est les premiers essais. Ensuite, plus loin, les chiffres sont encore plus parlants. 60 000 jeunes de 17 ans présentent déjà un risque élevé d'usage problématique de dépendance à 17 ans. Ensuite, ils sont 25% de personnes entre 18 et 25 ans qui déclarent un usage au cours de l'année. Et 39% des adolescents ont déjà fumé de cannabis à 17 ans. Donc, les chiffres officiels qui parlent de chiffres ici en France, apparemment, en France, c'est un pays qui est dans le premier rang de consommation de jeunes. Ça, c'est une question que peut-être on pourra évoquer plus loin. Et ensuite, toute cette partie légale et illégale, finalement, le produit lui-même devient plus dangereux, comme vous avez dit, qui peut amener, en pensant qu'on fume l'herbe, etc. Mais finalement, ça peut être l'autre chose dedans qui peut provoquer les autres effets encore plus dangereux.
Alors, on va faire un petit peu d'humour. Elisa, elle est tout à fait normale. Elle est en plein dans les chiffres.
Oui, voilà, je suis dans le...
Alors, je vais me retourner vers ma voisine Laure. Tout le monde n'est pas comme Elisa.
Non. Par contre, vous dites quelque chose de très vrai. C'est un problème d'émotion. C'est-à-dire qu'effectivement, d'autant plus à l'adolescence, où l'ado va avoir du mal à gérer ses émotions, à gérer la confiance, le produit, et en plus le cannabis à ce moment-là, va avoir un effet qui va donner cette estime, ce petit truc en plus pour aller vers les autres et se faire accepter aussi. Le problème de l'addiction, il est là. Voilà, c'est un vrai problème d'émotion à gérer, et tant que ça, les personnes ne l'ont pas comprise, elles continueront à consommer. Voilà. Tout le monde ne commence pas avec le cannabis et finit avec l'héroïne, heureusement. Ou pas, voilà. Hein, on ne va pas mettre tous les chemins, mais il y a différents parcours. Effectivement, le gros risque aujourd'hui, c'est que, vous le dites très bien, le seul discours que vous avez eu quand vous étiez jeune, le premier discours que vous avez eu, en tout cas, c'était les côtés positifs. Ça va vous décontracter, ça va te mettre en confiance, voilà. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on n'a pas de prévention. Enfin, en tout cas, très peu. Il en existe, mais qui ne sont pas encore assez développés, pas dans tous les milieux. Et c'est là où, effectivement, on a des choses encore à faire pour pouvoir prévenir des choses positives, mais surtout aussi des choses négatives derrière.
Je pense aussi qu'en moi, à cet âge-là, les choses négatives qu'on a pu me dire, même si c'était très très peu, je les écoutais pas du tout. Ça me passait vraiment au-dessus parce que dans ma tête, c'était « Ouais, personne peut comprendre ce délire que j'ai et c'est propre à moi-même. » J'ai compris en fait quand moi-même j'ai vu que, même si j'ai pas fumé longtemps, j'ai fumé 2-3 ans, j'ai eu des retours par la suite, enfin sur mon corps qui... Je sais que j'ai des... Comment on peut dire ça ? En gros, j'ai encore des séquelles, entre guillemets, de... Par exemple, j'ai pas trop de mémoire, et je sais très bien que j'ai commencé à plus en avoir à partir de...
Alors ça, justement, on va voir avec le médecin qu'on va, contacter tout à l'heure, les effets réels du cannabis. Il faut savoir que, je veux pas défendre le cannabis, mais la mémoire, l'alcool, je crois, est très destructeur à ce niveau-là. Le tabac, visiblement, est très destructeur au niveau des neurones, au niveau des cellules nerveuses et notamment de l'encéphale. Je crois que c'est tout un petit peu le côté d'exagération que l'on peut faire, quelles que soient les substances. Si vous mangez tous les jours de la sauce béarnaise, j'en parle en connaissance de cause puisque c'est mon métier, par litre, à mon avis, le foie, il va peut-être pas être très beau comme si vous avaliez beaucoup trop de l'alcool. On va en reparler tout de suite après cette première pause musicale.
Darling, stir it up.
Alors, on accueille maintenant par en insert téléphonique le docteur Blondeau. Docteur Blondeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir dégagé quelques minutes pour être avec nous. On a parlé d'ailleurs de vous en début de l'émission parce que je suis avec des collègues qui appartiennent à la même association que vous, à l'URUD, formatrice, Laure, que vous devez connaître, je pense.
Oui, oui.
Voilà. Et donc, on venait d'aborder, justement, avec également un représentant de l'École nationale de police, les dangers du cannabis. Et moi, j'ai tout de suite essayé de titiller un peu la police en disant, oui, mais enfin, le tabac, c'est dangereux aussi. Alors, vous en pensez quoi, docteur ?
Alors, j'en pense qu'il y a deux. Il faut considérer deux choses. Hein. Il faut considérer sur le cannabis les effets immédiats et les effets dans les consommations chroniques. Alors, les effets immédiats, je pense que la police est tout à fait au courant, parce qu'on sait très bien que, dans un premier temps, on a une espèce d'euphorie avec une sensation de bien-être, et puis, rapidement, on a une espèce d'état de ralentissement qui s'installe, c'est-à-dire avec une diminution de la capacité à fixer la mémoire à court terme, une diminution de l'attention, de la concentration, l'affaiblissement des réflexes, tout ça, voilà, le ralentissement du temps de réaction aussi qui est bien connu. Il y a une baisse de capacité aussi pour accomplir des tâches associées complexes, pour coordonner les mouvements, voilà. Et donc, si vous voulez, ben, je pense que ça, la police le sait très bien. Et c'est pour ça que le cannabis, ça restera toujours un produit qu'il faudra interdire pour la conduite automobile et pour dans les conditions de travail où il faut manipuler des machines complexes, où il faut avoir des réflexes, mais aussi où il faut avoir une vivacité de réflexes intellectuels. Ça, c'est les manifestations les plus classiques, c'est ça. Et puis après, il y a sur les consommations chroniques et en fonction de l'âge, d'autres aspects qui sont des détériorations chroniques, des fonctions cognitives, avec l'apparition éventuellement, alors beaucoup plus rare, de pathologies psychiatriques. Mais ça, de la même manière qu'on n'a pas tous les cheveux de la même couleur et les yeux de la même couleur, on n'a pas tous le cerveau fait pareil. C'est pour ça que ça reste quelque chose de relativement marginal, mais c'est un cofacteur de déclencher des maladies, des parano, de la dépersonnalisation, des altérations du jugement prolongé, voilà, des crises de panique aussi, ça se voit. Alors ça, c'est dans l'immédiat. Mais ça peut être là un des cofacteurs pour entrer dans des psychoses qui sont ensuite des maladies graves. Et c'est d'autant plus un facteur déclenchant que les consommations se passent chez des adultes, des jeunes adolescents, 13, 14 ans. Voilà.
Alors justement la Aïda, qui est coprésentatrice, avait une question à vous poser justement sur la jeunesse.
Voilà, je suis peut-être plus sensibilisée parce que moi-même, j'ai les jeunes enfants à la maison. Et ma question est suivante parce qu'on a constaté que souvent, les premiers essais arrivent à l'adolescence. Voilà, pourquoi à l'adolescence, pourquoi dans cette période que les jeunes essayent, tentent ces expérimentations?
Alors, pourquoi cet âge-là ? Eh bien, c'est la même chose que tous les adolescents qui essayent tout un tas de sports nouveaux, qui essayent de former leur personnalité par la confrontation à la société. Et dans la confrontation à la société à l'heure actuelle, eh bien, il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a le cannabis. Et on essaye de se différencier des parents, de prendre une autonomie, une capacité à innover. Et c'est comme ça qu'on se transporte vers ce genre de produits. Ensuite, il y a le fait que nous sommes des animaux sociaux et que donc, dans le groupe social où se trouvent les jeunes, ce type de produit circule extrêmement facilement. Et pour se conformer au groupe, aussi bien au niveau vestimentaire que comportement, que le vocabulaire aussi, il y a aussi la consommation du cannabis. Et c'est pour ça qu'on se transporte vers le cannabis.
Alors, l'autre docteur... je vous en prie, je vous ai coupé.
Oui.
Allez-y.
L'autre raison pour laquelle on va vers le cannabis, c'est que l'adolescence est aussi une période où il y a un certain mal-être, on n'est pas sûr de soi, on cherche à établir sa personnalité, à s'installer dans la vie. Or, je vous ai rappelé en début que le cannabis, ça donne aussi un état d'euphorie avec une sensation de bien-être.
Hein, comme l'alcool.
Voilà, hein, l'impression de calme, il y a la relaxation, et puis on devient gay, on devient tout à fait bavard, on n'a plus
un regard critique, joyeux, que ça soit pas voilà. Mal interprété.
Voilà, et donc il y a une erreur d'interprétation hein, qui est faite sur sa propre personnalité à ce moment-là, mais ça met les gens tout à fait en confiance sur eux-mêmes. Il y a cet aspect-là aussi.
Selon vous, ça peut être un tremplin pour aller vers la cocaïne ou les drogues?
Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, justement, il y a eu des études qui ont été faites, notamment en France aussi, mais au Canada, là, j'en ai encore lu récemment des documents là-dessus. Il n'y a absolument aucun lien qui est établi, que ce soit une ouverture pour passage à d'autres choses. Quand on passe à autre chose, c'est qu'il y a une autre problématique derrière, une problématique existentielle ou une pathologie psychiatrique beaucoup plus grave que chez le commun des adolescents. Hein. Pas du tout, c'est tout à fait autre chose.
Alors moi,
il n'y a pas d'ouverture particulière.
J'ai une question piège, évidemment, il fallait s'y attendre un peu. En soins palliatifs, on parle des effets extrêmement intéressants du cannabis contre la douleur. En France, c'est encore un petit peu tabou, alors que dans beaucoup de pays d'Europe, on traite les gens en fin de vie, justement, pour qu'ils ne souffrent pas. Vous en pensez quoi ?
Alors, moi, j'en pense que ça a été bien étudié ailleurs, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi possible en France.
Et alors, pourquoi ça ne se fait pas en France ?
Certainement parce que la décision politique n'a pas été prise. Mais c'est évident qu'il y a eu quand même un certain nombre de rapports qui ont été faits, hein, et notamment un rapport qui est paru cette année qui a été pourtant assez bien divulgué par la presse. On sait très bien que ce produit a quelques indications hein, sur les douleurs réfractaires aux thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou pas médicamenteuses, et sur lesquelles il y a des résistances. On sait très bien qu'il y a un certain effet. Il y a aussi, dans certaines formes d'épilepsie sévères et qui résistent à tous les traitements, ça peut aussi marcher. Ça peut être un support aussi en cancérologie, hein, notamment parce que ça apaise les gens, ça modifie aussi les conditions d'alimentation. Donc dans les situations palliatives, c'est tout à fait utilisable. Je pense que c'est tout simplement une décision politique. Hein, voilà, c'est une question d'environnement social. Je pense que les hommes politiques pèsent sans arrêt le pour, le contre. Voilà, et puis c'est comme ça que ça se fait. Mais il n'y a aucune raison, alors que c'est utilisé aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays européens, que ça ne puisse pas être utilisé en France. Je pense qu'on a la même physiologie, hein, quelle que soit la nationalité.
Oui, alors de toute manière, vous allez me dire, généralement, quand on parle de soins palliatifs, ce sont des gens très âgés. Je pense qu'il n'y a plus aucun risque supplétif avec l'usage du cannabis.
Ah ben non, voilà. Quand on est en soins palliatifs, de toute façon, on n'a plus rien à perdre.
Alors, on dit souvent que la vulnérabilité cérébrale, eh bien, c'est jusqu'à temps que le cerveau soit terminé, entre guillemets. Oui. C'est donc jusqu'à 25 ans, à peu près, où les risques sont maximum.
On considère en moyenne 25 ans, oui.
Voilà. Et c'est uniquement, ça détruit les cellules, ça les malforme, ça fait quoi ?
Non, alors, ça modifie les rapports entre les cellules, c'est-à-dire c'est au niveau de la jonction entre les axones et la terminaison des axones et la cellule neurologique suivante. Ça interfère sur la transmission des messages, voilà. Et probablement aussi sur la manière dont les cellules dans certaines parties du cerveau, notamment sur les zones où on fixe la mémoire, sur le fonctionnement des neurones, voilà. Il y a ce qu'on appelle des cellules dites des astrocytes qui interviennent donc dans la vivacité, l'alimentation des cellules neurologiques qui sont extrêmement perturbées. C'est au niveau des transmetteurs dans ces zones-là que se passe le problème. C'est pas véritablement, je ne pense pas que ce soit véritablement des défauts malformatifs, mais c'est des défauts ensuite de transmission neurologique. Et qui s'installent et qui sont définitivement perturbés. Bon, on retrouve le problème avec les femmes qui consomment du cannabis pendant la grossesse. On sait qu'on aura, tôt ou tard, une interférence sur le fonctionnement psychologique.
Oui, dans la mesure où ça passe les barrières fœtales, de toute manière, pendant toute la gestation.
Absolument. Voilà. Et on aura des conséquences sur la suite.
Alors,
on le sait.
Docteur, ouais. J'avais une question que j'avais gardée pour la fin, mais je ne vais pas vous garder tout le temps au téléphone, parce qu'il y a les autres intervenants aussi qui veulent réagir à ce que vous avez dit. Vous êtes pour ou contre la dépénalisation ?
Ben, moi, a priori, je suis pour la dépénalisation parce que il n'y a pas de raison qu'on ne permette pas le cannabis et qu'on permette l'alcool. A priori, on sait très bien par tous les tests qu'on a fait et lors des accidents de la circulation, par exemple, que les effets de l'alcool sont bien plus importants que les effets du cannabis. Parce que un alcoolique, en règle générale, il est beaucoup plus désinhibé et il a une propension à l'agressivité, ce que n'a pas le consommateur de cannabis. Ceci dit, je n'autoriserai pas, à mon avis, la consommation du cannabis sur la conduite automobile. Ça, c'est une chose qu'on ne va pas permettre.
Mais déjà, vous m'aviez transformé le représentant de l'école de police en kangourou parce qu'il était en train de faire des bonds jusqu'au plafond.
Ouais, non. J'ai bien dit en préambule, j'ai dit exactement ce qu'étaient les effets du cannabis. Mais a priori, puisqu'on permet l'alcool, pourquoi pas le cannabis ? Voilà. Mais j'ai redit ce que j'ai dit au début, il est hors de question de permettre le cannabis dans la conduite automobile, sur les lieux de travail, dans toutes les conditions où il y a nécessité d'avoir une vivacité de réaction, une bonne coordination. Et je pense que là, c'est absolument à proscrire systématiquement. Ça, c'est évident. Voilà. Mais a priori, puisqu'on permet l'alcool, pourquoi pas le cannabis ? Voyons. Hein ? Et puis, ça évitera tout un tas de démarches intempestives pour beaucoup de gens aussi et beaucoup de structures de l'État.
Docteur, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et je sais si bousculé en permanence. Merci à vous et on va se retrouver avec mes autres invités tout de suite après la deuxième pause musicale.
C'est un mot qu'on dirait, inventez-vous. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, t'es un oiseau qui danse ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame, yeah. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'il le faut. Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner les yeux du Dieu éternel? Désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien. Porte du jardin, Esmeralda.
sommes toujours dans les studios de Radio Libre en Périgord. On continue notre émission, cette discussion concernant le cannabis. Vous savez bien que c'est, selon la loi, c'est interdit en France, mais ça est devenu tellement banal, tellement ordinaire que certaines personnes se posent la question, pourquoi encore on est pénalisé, pourquoi on parle d'interdiction, que au niveau de l'usage, comme on a vu une constatation de différents témoignages, c'est devenu aussitôt consommé, utilisé comme le tabac ou l'alcool. Bien, et vous avez dit que la prévention, finalement, elle n'est pas au même stade comme la pénalisation, n'est-ce pas ? Comme l'interdiction.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Et je dis en tout cas ce qui aujourd'hui moi me marque, c'est que aujourd'hui les écoles ont le choix effectivement de faire intervenir les associations privées ou par exemple la police, mais ce n'est pas une obligation. On faisait un peu le point avec le monsieur. Aujourd'hui, ils sont deux agents pour se diviser le département, c'est ça ? À peu près.
En quelque sorte.
Voilà, vous avez une association qui est le CUD, qui va prendre aussi certaines missions sur les lycées, mais aujourd'hui, le lycée, s'il n'a pas le temps, pas les moyens de faire appel à ses associations ou à la police, qui elle va faire intervenir ? Ça veut dire qu'un lycée entier n'aura pas de prévention sur les différentes drogues. Au CUD, on s'intéresse peu aux produits. Le problème est vraiment l'addiction en tant que telle. On en parlait en début d'émission. Est-ce que le sexe, l'alcool, tout ça sont des addictions ? Le produit importe peu. Ça va être le rapport qu'on a à ce produit-là ou à l'action, si on parlait de sexe, de travail, de sport, le rapport que la personne a avec ce comportement-là qui va être problématique. Et je pense que c'est là qu'il faut venir prévenir les différentes personnes, mais surtout les différents risques auxquels ils vont être confrontés.
Mmh. Mais à quel moment la personne elle-même peut reconnaître qu'elle est addicte ? Souvent, ils disent non, je ne suis pas addicte, c'est juste comme les autres, je fais comme les autres. C'est ça souvent les réponses.
Confronté à la réalité, effectivement, quand vous... si effectivement on disait à la jeune femme qui avait à l'époque 15 ans, tiens, est-ce que ce soir tu peux rentrer chez toi sans fumer ton joint ? Je pense que la petite dame aurait trouvé 1000 excuses. Mais c'est comme ça qu'on aurait pu lui faire comprendre que, effectivement, c'est plus elle qui dirige le produit, mais c'est plutôt le produit qui commence à la diriger. Et que c'est des petites actions comme ça, je ne sais pas comment la police, elle s'y prend. En tout cas, moi, j'ai parlé de mon association. C'est grâce à ce genre d'échange, la communication est la base de tout. Si on commence à communiquer sur les choses, aujourd'hui, le problème, c'est que tout est tu. Un jeune à qui il peut parler de sa consommation de drogue. Les parents risquent en tout cas de le punir. Les parents ont peur aussi d'aborder ces choses-là pour éveiller l'envie. L'école, c'est pas le meilleur endroit. Où aller parler de ces choses-là ? À part entre copains qui vont vous dire « mais goûte, ça va te faire du bien ». Voilà, et je pense que c'est ces lieux-là qui doivent être beaucoup plus ouverts, et surtout à l'école.
Voilà, comment les approcher ? Comment aller parler ?
Alors moi, je vais rebondir tout de suite parce que... Il a des yeux extrêmement expressifs, le représentant de la police. Et alors, évidemment, il devait s'y attendre, qu'il y ait des petites questions quand même un petit peu incisives. La prévention, vous, à l'école, vous donnez donc des cours, vous formez les futurs policiers.
Tout à fait, oui.
Donc, vous allez leur expliquer un peu quelle est la démarche à adopter face à un consommateur, quel est le langage qu'ils doivent utiliser.
Alors, ça fait partie, bien sûr, des enseignements. Hein. Déjà, l'accueil du public ou la relation avec le public, quel qu'il soit, hein, donc que l'on peut côtoyer, que l'on soit policier ou que l'on soit gendarme, on a une formation sur ce relationnel qu'on doit avoir avec les personnes.
Psychologique.
Pas tout à fait. Faut pas mélanger les capacités ou les compétences de chacun. Donc, on n'est pas sur ce registre-là. On est surtout sur la façon dont on va aborder quelqu'un. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes que je forme, les gens qui sont addicts à certains produits, alors si on cible ces produits-là, alcool, cannabis, hein, on va exclure un peu le tabac parce que ça n'a pas tout à fait... Dans une notion d'enseignement, hein, ça n'a pas tout à fait policier, notamment ça, la même résonance. Mais si on reste sur ces deux produits, c'est prendre en compte qu'une personne addicte, pour nous, doit être considérée à la base aussi comme étant une personne malade. Elle souffre d'une certaine pathologie qui est une addiction à un produit. Donc on ne va peut-être pas avoir dans le relationnel peut-être la même façon d'aborder des choses.
Autrement dit, quand il y a une réponse pénale avec en peine complémentaire l'obligation de soins, ça rentre tout à fait. Qui dit soin dit maladie. Pour vous, c'est une maladie ?
On doit l'entendre comme ça. D'accord. Après, dans le comportement à adopter, c'est-à-dire qu'on ne doit pas déjà avoir du jugement. Hein. Ce n'est pas du tout notre façon de procéder. Hein. On n'a pas de jugement, mais il faut tenir compte dans la vision de la personne qu'on a en face de soi. On a un consommateur. Ce consommateur est potentiellement quelqu'un, suivant son taux d'addiction, quelqu'un qui est malade aussi. Donc on doit le traiter. Alors, on traite les gens d'une manière tout à fait correcte, c'est pas le sujet, mais en regardant aussi ce volet-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dépendante d'un produit. Certes, elle a fait des fautes, mais on ne va pas rajouter à sa faute. C'est pas du tout le sens du travail.
La moyenne de vos élèves, et quel âge ils ont ?
Oh, ça dépend. On a différents publics, mais on va dire entre 23 et 25 ans, on peut cibler.
En plein dans la fourchette dont on parlait tout à l'heure, il y a des consommateurs chez vous ?
Alors, bien sûr que non. Bien sûr que non.
La mauvaise foi.
Non, pas du tout, parce que dans les concours d'entrée ou dans les entrées lors des incorporations, ils sont soumis à des dépistages. Hein, donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de consommateurs.
Ils se rattrapent avec l'alcool.
Non. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de consommateurs. Après, que des gens aient utilisé à un moment donné dans leur adolescence ou dans leur vie des produits tels que le cannabis ou l'alcool, certes, ça existe. On ne va pas se voiler la face non plus. Vous avez cité des chiffres en début d'émission. On va chercher nos élèves dans la population. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des jeunes gens. Et j'ai envie de dire de plus en plus, avec le temps qui passe, des gens qui, au moment de l'adolescence, ont été des consommateurs pour une occasion bien précise, hein, c'est tester le produit. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit leur en tenir rigueur ou pas ?
Voilà. Alors justement, pour nous, à part d'être pris au volant, alors là, c'est interdit au même titre que l'alcool. Et d'ailleurs, je crois que c'est zéro pour le cannabis. On n'a même pas une trace, hein, je crois, au volant.
Ça dépend. Tout dépend, parce que dans le dosage de cannabis, il y a le cannabis au moment, alors au dépistage en lui-même, hein, sur le moment du contrôle, si vous êtes positif, vous êtes positif, et par contre à certains moments sur des accidents de la route, notamment assez graves, on peut avoir sur des prises de sang des traces de cannabis,
oui, de voir les arriérés,
mais qui ne sont pas liées immédiatement à l'accident lui-même. Donc, par contre, à ce moment-là, on sait que la personne est consommateur.
Alors, consommateur. Or, le fait de conduire avec ces substances, la réponse pénale, quelquefois, c'est une amende quand on est pris avec en train de fumer un joint. Est-ce qu'il y a, à part d'avoir un kilo de hashish, alors à ce moment-là on n'est plus consommateur, je crois qu'on est carrément dealer, pour dire le terme, mais est-ce qu'il y a réellement une réponse pénale actuellement pour si vous êtes pris dans la rue avec en train de fumer du cannabis ou avec un gramme par exemple, et que vous risquez quoi ?
Alors, la réponse pénale, elle existe encore, hein, elle est encore présente. Vous avez bien mis l'accent sur certaines choses, que l'on soit consommateur ou que l'on soit trafiquant, il y a une différence de sanction qui est prise. C'est vrai que le simple utilisateur, alors jusqu'à la preuve du contraire, à l'heure actuelle, le simple consommateur, c'est 1 an de peine d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
Ce qu'on risque au plus.
Au plus.
Voilà.
Au plus. Et on s'aperçoit dans la réalité des choses que souvent, ces sanctions-là ne sont pas appliquées parce qu'elles ne répondent plus à une réalité d'aujourd'hui. Si je prends le cas de la Dordogne, les jeunes consommateurs qui sont pris avec un joint de cannabis, des ados, font l'objet donc sur le suivi de la PJJ, la protection judiciaire de l'enfance, d'un stage donc justement dans lequel on intervient. Mais c'est un stage préventif, c'est-à-dire de les mettre, de les confronter à leur réalité. Voilà, je fume, je suis un consommateur et je peux développer une addiction à ce produit. Parce que je fume mes 5 joints par jour et comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas capable de peut-être me débarrasser de ma consommation. Des fois, souvent, c'est positif, c'est parce que le jeune ne se rend pas compte à quel niveau il consomme. Il est nécessaire de le confronter devant certaines choses. Alors, la réponse judiciaire, elle existe. La réponse préventive, elle est là aussi.
Hein, alors, c'est vrai que depuis la loi Taubira, la prison doit être exceptionnelle et que vous, vous intervenez en milieu carcéral. Vous nous en parlerez tout à l'heure, justement, parce que c'est intéressant de connaître l'autre volet. Est-ce que ça a un but? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose d'incarcérer un consommateur? Je n'ai pas parlé de dealer, hein, juste un consommateur. Si vous êtes pris 25 fois en récidive, vous finissez par aller en prison, quand même. Non?
Pas une certitude.
Non. Pas une certitude. Ah bon. Non.
Moi, j'ai eu quelques informations selon un site internet qui est dédié aux jeunes, qui parle sur ça, sur toutes ces choses-là. Et première chose qui est même soulignée en gras, fumer de cannabis, ça coûte cher, et très cher dans tous les sens du terme, parce qu'il y a les amendes, même si on est en possession que soi-même.
Il faut l'acheter d'abord, et avoir une amende.
On peut avoir une amende. Et si vous donnez au même du cannabis à quelqu'un, même en très faible quantité, même pour dépanner, comme dit ce site, vous êtes déjà trafiquant. Donc, c'est un trafic de cannabis et c'est un autre code pénal. Et les amendes sont beaucoup plus élevées, jusqu'à
7500 euros, oui.
Non, je pense qu'il y a 3 euros en plus.
Oui, non, mais là, je pense que les chiffres officiels...
75 000 euros.
75 000 euros.
D'accord. Donc, c'est ma imprimante qui est mal imprimée. Mais c'est pour ça que moi-même, j'ai commencé à regarder les chiffres, je dis, c'est pas possible. Donc, mais jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et les peines peuvent être doublées quand c'est vendu aux mineurs. Voilà, donc les peines sont quand même assez lourdes.
Alors oui, c'est logique que ce soit assez lourd. Il faut bien comprendre, il faut différencier le consommateur hein, en usage simple, qui le fait pour sa propre consommation. Il est, au regard de la loi, il est dans l'interdit. Donc il faut le sanctionner. Mais on ne peut pas sanctionner de la même manière quelqu'un qui fume pour son usage et celui qui entretient la consommation des autres, voire qui provoque à la consommation des autres. Donc il est normal que la société réagisse en mettant des sanctions beaucoup plus lourdes et dissuasives. Alors après, chaque fois qu'on énonce des peines d'amende ou des peines de prison, c'est le maximum encouru. Ça veut dire que généralement, la justice ne prononce pas à l'encontre des personnes qui ont été interpellées les peines maximales. On serait sur des gens qui sont sur la récidive ou qui sont des délinquants d'habitude. À ce moment-là, les peines montent en fonction de la personnalité de la personne interpellée. Mais généralement, la justice permet, dans son jugement premier, à celui qui a été pris en faute, de pouvoir s'amender en lui disant « vous avez commis une faute ». Ça peut se traduire sur une simple peine d'amende ou un rappel à la loi. Il y a beaucoup de consommateurs, de fumeurs de joints, entre guillemets, qui sont interpellés et qui ont un rappel à la loi. C'est-à-dire, on leur dit la loi, on leur dit...
Mais ça, c'est pas bien ce que vous faites.
Voilà, c'est pas bien. Et vous encourez ça si vous recommencez, si vous devenez ce qu'on appelle des consommateurs d'habitude ou, après, plus loin, hein, si le trafic s'intensifie ou si les gens sont repris pour du trafic.
Alors, dans la dernière partie, on verra avec Elisa, j'ai une question, mais ça sera après la pause musicale, à lui poser si elle se rendait compte des risques qu'elle encourait d'amende, voire de prison, quand elle consommait. Et puis, on verra un petit peu comment le comportement qu'il y a en milieu carcéral avec Laure pour voir si la réponse pénale quelquefois sert à quelque chose ou pas.
J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare. À la campagne tirée par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme au noir illuminée. Une maison toute en pierre que la mer a rongée. chemin. J'y reviens, j'entends la voix, certains soirs, quelque chose qui crie.
Alors maintenant, on va voir le volet méchant, le volet pénal, celui qui va, le vilain, il est délinquant, ce qu'on appelle un délinquant, hein. Ben oui.
Oui.
Voilà, et on l'envoie en prison. Alors Elisa, ma première question, est-ce que quand vous avez, ce que vous avez expliqué au début de l'émission, est-ce que vous aviez le sentiment, en faisant justement, en bravant les interdits et en consommant, qu'il pouvait y avoir une réponse pénale ?
Alors, j'en étais consciente, oui et non. Je pense que c'était le côté un petit peu, comme vous disiez, adrénaline, tout ça. Donc, franchement, ça me passait largement au-dessus. Clairement, pareil, non.
D'accord.
Tant que ça ne m'est pas arrivé, moi, ça, pour moi, c'est...
Et vous êtes passé à travers les gouttes. Vous êtes passé à travers les gouttes.
Eh bien, c'est drôle, mais oui. Oui, oui. Même, j'ai été très, très près, mais oui, j'ai failli me faire choper, mais j'ai jamais...
D'accord. Alors, moi, je vais me retourner maintenant vers ma voisine de droite. Elle, vous opérez dans les prisons.
Oui.
C'est là, vous n'êtes pas en prison, mais presque. Mais vous avez le droit d'y rentrer et de sortir. Alors, qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, en fait, une unité de réhabilitation pour usagers de drogue a été ouverte en 2017. C'est une première en France. C'était pour prendre en charge les personnes qui le souhaitaient, tout détenu qui le souhaite, à essayer de commencer à arrêter, ou en tout cas à réfléchir autour de ces problèmes d'addiction. Donc, effectivement, on est une aile qui se trouve au centre de détention de Neuvik, où il peut y avoir jusqu'à 15 détenus volontaires, dans une démarche communautaire, donc de vivre ensemble et de partager ensemble l'expérience d'addiction pour pouvoir s'aider ensemble sur... les difficultés qu'on a pu rencontrer. Ce que je peux constater là-bas, c'est que, quel que soit, là où je vais revenir sur les propos de monsieur le policier, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'incarcération que due à la consommation de cannabis. Sur l'unité dans laquelle je travaille, déjà, toutes les personnes ne sont pas forcément tombées en lien avec un problème de stup. C'est souvent quand même jamais très loin. Néanmoins, il y a une consommation avant l'incarcération. Et ce qu'on peut constater, c'est que quel que soit le produit, il y a un déplacement de la consommation qui s'oriente vers le cannabis. On a 90% de la population carcérale qui fume, qui, à l'extérieur, ne fumerait pas, forcément. On a pu le constater sur des gens qui ont des problèmes d'alcool.
90%
en tout cas, sur le groupe que je constate.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. On est sur aujourd'hui des gens qui consomment pas forcément à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont addicts à l'alcool, à l'héroïne ou à des choses comme ça, mais qui effectivement pour venir combler un peu le manque dû à ce produit-là, puisque l'alcool ne se trouve pas aussi facilement, l'héroïne ne se trouve pas aussi facilement, vont consommer du cannabis qui pour le coup se trouve déjà un peu plus facilement en milieu carcéral. Alors je dirais pas qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est aussi très simple d'en trouver, mais en tout cas à l'extérieur, il faut savoir où. Dans la prison, vous le savez où, puisque tout se dit.
Alors là par contre, je vais vous dire qu'à Périgueux, effectivement, c'est très simple d'en trouver, ça je peux vous le dire. N'allez simplement en face de mon restaurant et vous allez en trouver. En dehors de ça, il faut savoir quand même qu'il y a des chiffres, puisque Aïda est très chiffre également. Avant, on parlait du Maroc. Et de la Hollande pour ravitailler, sachez que le sud-ouest de la France est maintenant le premier pourvoyeur et éleveur de cannabis pour la France. C'est quand même très intéressant. Mmh. Et la Dordogne, on est pas mal non plus.
Exactement, je crois que vous êtes très bon dans les chiffres pour faire pousser dans les jardins et dans les petites, je ne sais plus comment on appelle ça, là, dans les petites chambres. Vous devez connaître ça, monsieur le policier, je pense.
Oui, un peu, ouais.
J'aime bien monsieur le policier.
Il y a tout moyen pour faire pousser son cannabis. Hein. Pour certains, ça a commencé dans les baignoires. Après, il y a des chambres de production qui existent et qui sont. J'ai presque dire le mode d'emploi est disponible sur Internet pour trouver ou pour faire pousser du cannabis. Encore une fois, je pense que on ne mesure pas à notre niveau la consommation de cannabis et le tonnage de cannabis qui se présente dans notre pays. C'est les saisies en sont des exemples, mais ils se consomment énormément.
C'est peut-être l'interdit qui augmente la consommation.
Oui, alors oui, peut-être oui, mais c'est surtout aussi, je pense que plus on va et plus on a eu du consommateur, vous le disiez dans vos chiffres, hein, c'est les jeunes ados qui sont touchés. En fumeurs réguliers sur le territoire, dans les chiffres que je peux avoir, on est sur des fumeurs réguliers hein, de cannabis, c'est 1,2 million de consommateurs en France. Donc je veux dire, ça génère bien sûr une production qui est importante. Alors les productions locales sud-ouest, je veux bien, mais je pense qu'encore et on est abondé de produits qui arrivent de l'étranger, qui génèrent des trafics dans des endroits. Alors on va pas cibler que des quartiers de certaines villes. Hein. Il y a d'autres endroits aussi où les trafics se mettent en place parce que c'est c'est un produit qui ramène de l'argent sale, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, qui ramène de l'argent et donc certains se lancent dans des trafics. Donc,
Maintenant, il faut dire aussi que depuis 4 ans, la météo est particulièrement favorable en Dordogne pour la culture des plants de cannabis.
Oui, tant mieux pour le cannabis en lui-même.
Je
ne
sais pas si vous avez vu dans la presse il y a une semaine,
alors après,
c'est des lieutenants de louveterie qui étaient en train de faire un relevé de pieds de sangliers qui sont tombés sur 10 plants de cannabis en pleine forêt. Pas oui, tellement loin d'ici, c'est tout à fait étonnant quand même.
Alors ce qu'on trouve aussi régulièrement, c'est que des pieds de cannabis au milieu de champs de maïs, et c'est vrai que le sud-ouest produit énormément de maïs aussi. Pourquoi ? Parce que le cycle végétatif du cannabis et du maïs, c'est quasi le même. Donc voilà, certains se permettent de faire une petite culture illégale.
Et puis maintenant avec le chanvre.
Et le chanvre. Alors, justement,
ça, c'est la même fleur, c'est la même feuille.
C'est la même feuille, c'est ça. C'est, sauf que le taux de THC, donc la substance psychoactive contenue à l'intérieur et qui est à la base des addictions, hein, n'existe pas sur le chanvre commercial.
Mais pour le reconnaître.
Ah, pour le reconnaître, c'est pour nous, c'est beaucoup très compliqué. Voilà, on va dire, ça devient. Alors après, des gens ont des autorisations hein, pour faire pousser ce type de produit. Je vous le dis, ça répond à un taux de THC.
Alors pour nos auditeurs, il faut savoir que le taux de THC, c'est le cannabidiol principalement, qui est l'alcool, le principe actif du cannabis, qui est effectivement c'est là où il y a la dangerosité, et que le chanvre, qui est de plus en plus cultivé maintenant dans le sud-ouest. Qui fournit notamment les fibres pour les corderies nationales, tout ce qui est navigation, etc. Eh bien, c'est sous contrôle justement parce que les feuilles ressemblent terriblement au vrai cannabis. C'est la même famille d'ailleurs. Les graines de chanvre pour les pêcheurs de carpe. Je sais que dans l'assistance, il y a un pêcheur, c'est le chenvil, hein, on n'a pas très bien les carpes avec ça, et la graine de cannabis, elle y ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, c'est exactement pareil. Donc effectivement, il y a une ressemblance. Je voudrais revenir juste avant, parce que là, l'émission passe très très vite, encore une fois pour le milieu carcéral, parce qu'on n'avait pas été jusqu'au bout de la question. Quand vous voyez des gens qui sont volontaires, vous avez dit, qui ont peut-être un programme dans la tête, est-ce qu'ils veulent réellement s'arrêter, est-ce que vous voyez des résultats, vous ? Est-ce que vous avez déjà vu un jeune ou un moins jeune qui est en prison, qui suit votre groupe et à la sortie, il ne fume plus ?
Oui, bien sûr, heureusement, parce que je crois que sinon on aura arrêté depuis un petit moment. Non, bien sûr, heureusement. Après, ça va dépendre de la personne. Entre la personne qui a passé un parcours, on va reprendre l'histoire de la jeune fille, qui va expérimenter un produit, qui va se rendre compte au bout d'un certain temps qu'effectivement, ça lui apporte plus de problèmes que de bons côtés. elle va faire un travail sur elle et elle va pouvoir déclencher effectivement une abstinence derrière. Et d'autres, effectivement, rêvent de pouvoir maîtriser cette forme de maîtrise un peu idéalisée. Et d'autres vont imaginer pouvoir faire juste un court arrêt pour pouvoir mieux reprendre derrière. Je vais parler de la première expérience qu'on a eue à l'URUD. Un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait fait un certain temps en prison, qui, le premier jour où il est arrivé sur notre unité, a partagé un bon joint avec tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on fait connaissance et qu'on paye l'apéro souvent. Et puis, le lendemain, a réussi à commencer une abstinence qui n'a pas été simple. Hein. Elle a duré 6 mois avec des hauts et des bas, avec... certaines compensations avec des médicaments, et qui aujourd'hui, 2 ans après, est en communauté thérapeutique, continue ses soins, n'a pas refait de rechute, qui émotionnellement va et vient, mais effectivement il n'y a pas de reprise d'alcool, de cannabis, de drogue, quelle qu'elle soit. Et voilà, on a d'autres patients qui sont venus, qui étaient venus pour un problème autre et qui effectivement avaient déclenché une dépendance au cannabis et arrêtent le cannabis derrière. D'autres n'arrêteront pas parce qu'effectivement, c'est leur choix.
Alors, très souvent, on dit qu'il y a des gens qui se mettent à fumer ou à boire parce que il y a un divorce, il y a un proche qui vient de mourir, donc un choc psychologique. Est-ce que l'inverse peut se produire? Est-ce qu'on peut arrêter, justement, j'ai assimilé l'alcool, mais le cannabis sur, justement, un choc, est incarcéré, par exemple?
Bien sûr. Ça va dépendre de chacun.
Donc, ça peut servir quand même à quelque chose?
Oui.
Oui, ah, alors là, je ne sais pas si dans votre question, le fait de rentrer en prison, ça peut arrêter réellement toute addiction. Ça, je pense pas.
Je pense que
un certain choc psychologique peut peut-être aider à certains moments. On revient un peu sur les propos qui ont été dits tout à l'heure par votre invité et puis par le docteur. Si on reste sur les jeunes, c'est le mal-être surtout qui les fait basculer sur un type d'addiction. C'est la recherche d'un autre plaisir et d'autres sensations. Donc, le fait de rentrer en prison, je ne suis pas sûr que...
Je pense qu'on s'est mal compris. Compris la question. Nous, effectivement, l'outil qui va nous permettre, sur l'unité là, dans laquelle je travaille, qui va vraiment leur permettre de prendre conscience des choses, ça va être le récit de vie. Et donc, à un moment, comment ils posent leur vie, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce choc émotionnel, en fait, de prendre conscience qui va faire quelque chose. J'ai mal compris votre question, j'en suis désolée. Ce n'est pas le fait de rentrer en prison. Mais à un moment, c'est de pouvoir faire un travail sur soi, de prendre conscience de ce qui s'est passé pour soi et dans sa vie, qui va permettre sûrement un décalage.
Pardon, si je puis me permettre, on est sur l'action de l'association comme sur l'action que peuvent avoir certains médecins, c'est d'accompagner la personne. Alors déjà, il faut qu'il y ait la volonté de cette personne de vouloir s'en sortir, mais aussi, une fois qu'on leur fait prendre conscience, c'est de l'accompagner, faire le chemin de sortir de l'addiction. Parce qu'on n'en sort pas tout seul, c'est pas possible. On ne peut pas dire, tiens, tu laisses ton joint là, tu laisses ta bouteille d'alcool là, et puis tout va aller très bien. Il faut qu'il y ait un suivi. C'est vrai qu'en milieu carcéral, d'autant plus, je pense que... il faut qu'il y ait un large suivi. Nous, dans les actions de prévention, ce qu'on essaye de mettre en place en milieu scolaire, c'est de prendre les enfants dès la 6e jusque les classes préparatoires, en essayant de se voir à peu près tous les 2 ans pour faire un suivi en fonction des différents produits et surtout essayer de retrouver des publics pour voir où ils en sont dans leur... Alors, on n'est pas des psychologues. Enfin, moi, je ne suis pas un psychologue. D'autres psychologues existent. Il y a des structures aussi sur Périgueux qui existent en addictologie où on cherche à aider des gens. Je pense que la base de l'addictologie, je pense, c'est sur la psychologie. Les jeunes... Parce que moi, c'est ce public-là, je pense qu'il faut cibler à notre niveau, pour éviter qu'ils aillent dans l'addiction. Les jeunes ont besoin d'être entendus et besoin d'être soutenus. Voilà, donc c'est le propos et surtout le travail qu'on met en place, nous, en termes de prévention.
60 minutes, ça passe très vite.
Eh oui.
C'est toujours très chaud. J'ai une question à vous poser à la fin. Mais ça va être sympa. Alors, c'est toujours les questions qui reviennent au moment des échéances électorales. Et là, on en a une bientôt. Donc, on commence à en reparler. Je sais que vous avez un droit de réserve à la police. Mais je vais quand même vous la poser. On va faire un tour de table. Vous répondez par oui ou par non. Ça vous est propre. Vous imaginez que vous n'êtes plus policier. Vous êtes un... vous imaginez. Vous êtes pour ou contre la dépénalisation?
Je suis un agent de prévention, donc je suis contre.
D'accord. Pour vous?
En mon nom propre, je suis pour.
Vous êtes pour. Elisa, ex-consommatrice?
Je suis pour.
D'accord. Bon, apparemment, il n'y a que la police qui est
con. Non, alors je ne veux pas justement engager mon institution. La réponse, non, la réponse sera politique. Mais voilà, je pense qu'il faut que le discours soit assez clair. On est en face de produits qui sont très dangereux et on ne peut pas se permettre d'introduire un nouveau produit alors qu'on en a déjà des produits qui existent. On ne peut pas se permettre d'avoir deux discours. Je pense que ce qui est dangereux est dangereux et il faut, quel que soit le produit, s'en séparer plutôt que d'accepter ou de tolérer.
Je vous remercie à tous sur ces mots de conclusion d'avoir fait cette émission et je vous dis au mois prochain pour un autre volet sur l'addiction. Au revoir.